Lettre 32, Madame de Macumer à Madame de l'Estorade. Mars 1826. Comment, ma chérie ? Voilà plus de 3 mois que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu de lettre de toi. Je suis la plus coupable des deux. Je ne t'ai pas répondu. Mais tu n'es pas susceptible que je sache. Ton silence a été pris par Macumer et par moi comme une adhésion pour le déjeuner orné d'enfants, et ces charmants bijoux vont partir ce matin pour Marseille. Les artistes ont mis 6 mois à les exécuter. Aussi me suis-je réveillée en sursaut quand Felipe m'a proposé de venir voir ce service avant que l'orfèvre ne l'emballât. J'ai soudain pensé que nous ne nous étions rien dit depuis la lettre où je me suis sentie mère avec toi. Mon ange, le terrible pari, voilà mon excuse à moi. J'attends la tienne. Oh, le monde, quel gouffre! Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que parisienne à Paris? Le monde, il brise tous les sentiments, il vous prend toutes vos heures, il vous dévorerait le cœur si l'on y faisait attention. Quel étonnant chef-d'œuvre que cette création de Célimène dans le Misanthrope de Molière! C'est la femme du monde du temps de Louis XIV comme celle de notre temps. Enfin, la femme du monde de toutes les époques. Où en serais-je sans mon égide, sans mon amour pour Felipe? Aussi lui ai-je dit ce matin, en faisant ces réflexions, qu'il était mon sauveur. Si mes soirées sont remplies par les fêtes, par les bals, par les concerts et les spectacles, je retrouve au retour les joies de l'amour et ces folies qui m'épanouissent le cœur, qui en effacent les morsures du monde. Je n'ai dîné chez moi que les jours où nous avons eu les gens qu'on appelle des amis, et je n'y suis restée que pour mes jours. J'ai mon jour, le mercredi, où je reçois. Je suis entrée en lutte avec Mesdames d'Espard et de Maufrigneuse, avec la vieille duchesse de Lenoncourt. Ma maison passe pour être amusante. Je me suis laissée mettre à la mode en voyant mon Felipe heureux de mes succès. Je lui donne les matinées, car depuis 4 heures jusqu'à 2 heures du matin, j'appartiens à Paris. Macumer est un admirable maître de maison. Il est si spirituel et si grave, si vraiment grand et d'une grâce si parfaite, qu'il se ferait aimer d'une femme qu'il aurait épousée d'abord par convenance. Mon père et ma mère sont partis pour Madrid. Louis XVIII, mort, la duchesse a facilement obtenu de notre bon Charles X la nomination de son charmant Saint-Hérène, qu'elle emmène en qualité de second secrétaire d'ambassade. Mon frère, le duc de Rhétoré, daigne me regarder comme une supériorité. Quant au marquis de Chaulieu, ce militaire de fantaisie me doit une éternelle reconnaissance. Ma fortune a été employée, avant le départ de mon père, à lui constituer en terre un majorat de 40 000 francs de rente. Et son mariage avec mademoiselle de Morceau, une héritière de Touraine, est tout à fait arrangé. Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les titres de la maison de Lenoncourt, va autoriser par une ordonnance mon frère à succéder aux noms, titres et armes des Lenoncourt-Givry. Mademoiselle de Morceau, petite fille et unique héritière du duc de Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de 100 000 livres de rente. Mon père a seulement demandé que les armes des Chaulieu fussent en abîme sur celles des Lenoncourt. Ainsi, mon frère sera duc de Lenoncourt. Le jeune de Morceau, à qui toute cette fortune devait revenir, est au dernier degré de la maladie de poitrine. On attend sa mort de moment en moment. L'hiver prochain, après le deuil, le mariage aura lieu. J'aurai, dit-on, pour belle-sœur, une charmante personne dans Madeleine de Morceau. Ainsi, comme tu le vois, mon père avait raison dans son argumentation. Ce résultat m'a valu l'admiration de beaucoup de personnes, et mon mariage s'explique. Par affection pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône Macumer, en sorte que notre succès est complet. après avoir commencé par me blâmer, le monde m'approuve beaucoup. Je règne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de chose, il y a bientôt 2 ans. Macumer voit son bonheur envié par tout le monde, car je suis la femme la plus spirituelle de Paris. Tu sais qu'il y a 20 plus spirituelles femmes de Paris à Paris. Les hommes me roucoulent des phrases d'amour ou se contentent de l'exprimer en regards envieux. Vraiment, il y a dans ce concert de désirs et d'admiration une si constante satisfaction de la vanité que, maintenant, je comprends les dépenses excessives que font les femmes pour jouir de ces frêles et passagers avantages. Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l'amour-propre, enfin tous les sentiments du moi. Cette perpétuelle divinisation grise si violemment que je ne m'étonne plus de voir les femmes devenir égoïstes, oublieuses et légères au milieu de cette fête. Le monde porte à la tête. On prodigue les fleurs de son esprit et de son âme, son temps le plus précieux, ses efforts les plus généreux, à des gens qui vous paient en jalousie et en sourire, qui vous vendent la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs compliments et de leurs adulations, contre les lingots d'or de votre courage, de vos sacrifices, de vos inventions pour être belle, bien mise, spirituelle, affable et agréable à tous. On sait combien ce commerce est coûteux. On sait qu'on y est volé, mais on s'y adonne tout de même. Ah, ma belle biche, combien on a soif d'un cœur ami, combien l'amour et le dévouement de Felipe sont précieux, combien je t'aime. Avec quel bonheur on fait ses apprêts de voyage pour aller se reposer à Chantepleurs des comédies de la rue du Bac et de tous les salons de Paris. Enfin, moi qui viens de relire ta dernière lettre, je t'aurais peint cet infernal paradis de Paris en te disant qu'il est impossible à une femme du monde d'être mère. À bientôt, chérie. Nous nous arrêterons 1 semaine au plus à Chantepleurs et nous serons chez toi vers le 10 mai. Nous allons donc nous revoir après plus de 2 ans. Et quel changement ! Nous voilà toutes 2 femmes. Moi la plus heureuse des maîtresses, toi la plus heureuse des mères. Si je ne t'ai pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas oublié. Et mon filleul, ce singe, est-il toujours joli? Me fait-il honneur? Il aura plus de 9 mois. Je voudrais bien assister à ses premiers pas dans le monde. Mais Macumer me dit que les enfants précoces marchent à peine à 10 mois. Nous taillerons donc des bavettes, en style du blésois. Je verrai si, comme on le dit, un enfant gâte la taille. Postscriptum. Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta lettre à Chantepleurs. Je pars.
Chapitre 33. Madame de l'Estorade à Madame de Macumer. Hé, mon enfant, si jamais tu deviens mère, tu sauras si l'on peut écrire pendant les 9 premiers mois de la nourriture. Mary, ma bonne Anglaise et moi, nous sommes sur les dents. Il est vrai que je ne t'ai pas dit que je tiens à tout faire moi-même. Avant l'événement, j'avais de mes doigts cousu la layette et brodé, garni moi-même les bonnets. Je suis esclave, ma mignonne, esclave le jour et la nuit. Et d'abord, Armand Louis, tête quand il veut, et il veut toujours. Puis, il faut si souvent le changer, le nettoyer, l'habiller. La mère aime tant à le regarder endormi, à lui chanter des chansons, à le promener quand il fait beau, en le tenant sur ses bras, qu'il ne lui reste pas de temps pour se soigner elle-même. Enfin, tu avais le monde, j'avais mon enfant, notre enfant. Quelle vie riche et pleine ! Oh, ma chère, je t'attends, tu verras. Mais j'ai peur que le travail des dents ne commence et que tu ne le trouves bien criard, bien pleureur. Il n'a pas encore beaucoup crié, car je suis toujours là. Les enfants ne crient que parce qu'ils ont des besoins qu'on ne sait pas deviner, et je suis à la piste des siens. Ô mon ange, combien mon cœur s'est agrandi pendant que tu rapetissais le tien en le mettant au service du monde. Je t'attends avec une impatience de solitaire. Je veux savoir ta pensée sur l'estorade, comme tu veux sans doute savoir la mienne sur ma cumère. Écris-moi de ta dernière couchée. Mes hommes veulent aller au-devant de nos illustres hôtes. Viens, reine de Paris, viens dans notre pauvre bastide, où tu seras aimée.
Lettre 34 de Madame de Macumer à la Vicomtesse de l'Estorade. Avril 1826. L'adresse de ma lettre t'annoncera, ma chère, le succès de mes sollicitations. Voilà ton beau-père, comte de l'Estorade. Je n'ai pas voulu quitter Paris sans t'avoir obtenu ce que tu désirais. Et je t'écris devant le garde des Sceaux qui m'est venu dire que l'ordonnance est signée. À bientôt. Lettre 35. Madame de Macumer à Madame la Vicomtesse de l'Estorade. Marseille, juillet. Mon brusque départ va t'étonner, j'en suis honteuse. Mais, comme avant tout je suis vraie et que je t'aime toujours autant, je vais te dire naïvement tout en quatre mots. Je suis horriblement jalouse. Felipe, te regardez trop. Vous aviez ensemble, au pied de ton rocher, de petites conversations qui me mettaient au supplice, me rendaient mauvaise et changeaient mon caractère. Ta beauté vraiment espagnole devait lui rappeler son pays et cette Marie Heredia, de laquelle je suis jalouse, car j'ai la jalousie du passé. Ta magnifique chevelure noire, tes beaux yeux bruns, ce front où les joies de la maternité mettent en relief tes éloquentes douleurs passées, qui sont comme les ombres d'une radieuse lumière, cette fraîcheur de peau méridionale plus blanche que ma blancheur de blonde, cette puissance de forme, ce sein qui brille dans les dentelles comme un fruit délicieux auquel se suspend mon beau filleul. Tout cela me blessait les yeux et le cœur. J'avais beau tantôt mettre des bleuets dans mes grappes de cheveux, tantôt relever la fadeur de mes tresses blondes par des rubans cerises, tout cela pâlissait devant une Renée que je ne m'attendais pas à trouver dans cette oasis de la crampade. Felipe enviait trop aussi cet enfant que je me prenais à haïr. Oui. Cette insolente vie qui remplit ta maison, qui l'anime, qui y crie, qui y rit, je la voulais à moi. J'ai lu des regrets dans les yeux de Macumer. J'en ai pleuré pendant deux nuits à son insu. J'étais au supplice chez toi. Tu es trop belle femme et trop heureuse mère pour que je puisse rester auprès de toi. Ah, hypocrite, tu te plaignais. D'abord, ton l'Estorade est très bien. Il cause agréablement. Ses cheveux noirs mélangés de blanc sont jolis. Il a de beaux yeux et ses façons de méridional ont je ne sais quoi qui plaît. D'après ce que j'ai vu, il serait tôt ou tard nommé député des Bouches-du-Rhône. Il fera son chemin à la Chambre, car je suis toujours à votre service en tout ce qui concerne vos ambitions. Les misères de l'exil lui ont donné cet air calme et posé qui me semble être la moitié de la politique. Selon moi, ma chère, toute la politique, c'est de paraître grave. Aussi disais-je à Macumer qu'il doit être un bien grand homme d'État. Enfin, après avoir acquis la certitude de ton bonheur, je m'en vais à Tire-d'Aile, contente dans mon cher Chantepleur, où Felipe s'arrangera pour être père. Je ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon sein un bel enfant semblable au tien. Je mérite tous les noms que tu voudras me donner. Je suis absurde, infâme, sans esprit. Hélas, on est tout cela quand on est jalouse. Je ne t'en veux pas, mais je souffrais. et tu me pardonneras de m'être soustraite à de telles souffrances. Encore 2 jours, j'aurais commis quelques sottises. Oui, j'eusse été de mauvais goût. Malgré ces rages qui me mordaient le cœur, je suis heureuse d'être venue, heureuse de t'avoir vue mère si belle et si féconde, encore mon amie au milieu de tes joies maternelles, comme je reste toujours la tienne au milieu de mes amours. Tiens, à Marseille, à quelques pas de vous, je suis déjà fière de toi, fière de cette grand-mère de famille que tu seras. Avec quel sens tu devinais ta vocation, car tu me sembles née pour être plus mère qu'amante, comme moi, je suis plus née pour l'amour que pour la maternité. Certaines femmes ne peuvent être ni mères ni amantes, elles sont ou trop laides ou trop sottes. Une bonne mère et une épouse maîtresse doivent avoir à tout moment de l'esprit, du jugement, et savoir à tout propos déployer les qualités les plus exquises de la femme. Oh, je t'ai bien observée. N'est-ce pas te dire, ma Minette, que je t'ai admirée? Oui, tes enfants seront heureux et bien élevés. Ils seront baignés dans les effusions de ta tendresse, caressés par les lueurs de ton âme. Dis la vérité sur mon départ à ton Louis, mais colore-la d'honnêtes prétextes aux yeux de ton beau-père, qui semble être votre intendant, et surtout aux yeux de ta famille, une vraie famille Arlao, plus l'esprit provençal. Felipe ne sait pas encore pourquoi je suis partie. Il ne le saura jamais. S'il le demande, je verrai à lui trouver un prétexte quelconque. Je lui dirai probablement que tu as été jalouse de moi. Fais-moi crédit de ce petit mensonge officieux. Adieu. Je t'écris à la hâte afin que tu aies cette lettre à l'heure de ton déjeuner. Et le postillon, qui s'est chargé de te la faire tenir, est là, qui boit en l'attendant. Baise bien, mon cher petit filleul, pour moi. Viens à Chantepleurs au mois d'octobre. J'y serai seule pendant tout le temps que ma coumère ira passer en Sardaigne, où il veut faire de grands changements dans ses domaines. Du moins, tel est le projet du moment. Et c'est sa fatuité à lui d'avoir un projet. Il se croit indépendant. Aussi est-il toujours inquiet en me le communiquant. Adieu.
Chapitre 36. De la vicomtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Ma chère, notre étonnement à tous a été inexprimable quand, au déjeuner, on nous a dit que vous étiez partie, et surtout quand le postillon qui vous avait emmené à Marseille m'a remis ta folle lettre. Mais méchante, il ne s'agissait que de ton bonheur dans ces conversations au pied du rocher, sur le banc de Louise, et tu as eu bien tort d'en prendre ombrage. Ingrata, je te condamne à revenir ici à mon premier appel. Dans cette odieuse lettre griffonnée sur du papier d'auberge, tu ne m'as pas dit où tu t'arrêteras. Je suis donc obligée de t'adresser ma réponse à Chantepleurs. Écoute-moi, chère sœur d'élection, et sache avant tout que je te veux heureuse. Ton mari, ma Louise, a je ne sais quelle profondeur d'âme et de pensée qui impose autant que sa gravité naturelle et que sa contenance noble impose. Puis, il y a dans sa laideur si spirituelle, dans ce regard de velours, une puissance vraiment majestueuse. Il m'a donc fallu quelque temps avant d'établir cette familiarité sans laquelle il est difficile de s'observer à fond. Enfin, cet homme a été premier ministre, et il t'adore comme il adore Dieu. Donc, il devait dissimuler profondément, et pour aller pêcher des secrets au fond de ce diplomate, sous les roches de son cœur, j'avais à déployer autant d'habileté que de ruse. Mais j'ai fini, sans que notre homme s'en soit douté, par découvrir bien des choses desquelles ma mignonne ne se doute pas. De nous deux, je suis un peu la raison, comme tu es l'imagination. Je suis le grave devoir, comme tu es le fol amour. Ce contraste d'esprit, qui n'existait que pour nous deux, le sort s'est plu à le continuer dans nos destinées. Je suis une humble vicomtesse campagnarde, excessivement ambitieuse, qui doit conduire sa famille dans une voie de prospérité, tandis que le monde sait Macumer, ex-duc de Soria, et que duchesse de droit, tu règnes sur ce Paris où il est si difficile à qui que ce soit, même au roi, de régner. Tu as une belle fortune que Macumer va doubler s'il réalise ses projets d'exploitation pour ses immenses domaines de Sardaigne, dont les ressources sont bien connues à Marseille. Avoue que si l'une de nous deux devait être jalouse, ce serait moi. Mais rendons grâce à Dieu de ce que nous ayons chacune le cœur assez haut placé pour que notre amitié soit au-dessus des petitesses vulgaires. Je te connais, tu as honte de m'avoir quittée. Malgré ta fuite, je ne te ferai pas grâce d'une seule des paroles que j'allais te dire aujourd'hui sous le rocher. Lis-moi donc avec attention, je t'en supplie, car il s'agit encore plus de toi que de Macumer, quoiqu'il soit pour beaucoup dans ma morale. D'abord, ma mignonne, tu ne l'aimes pas. Avant 2 ans, tu te fatigueras de cette adoration. Tu ne verras jamais en Felipe un mari, mais un amant de qui tu te joueras sans nul souci, comme font d'un amant toutes les femmes. Non, il ne t'impose pas. Tu n'as pas pour lui ce profond respect, cette tendresse pleine de crainte qu'une véritable amante a pour celui en qui elle voit un dieu. Oh, j'ai bien étudié l'amour, mon ange, et j'ai jeté plus d'une fois la sonde dans les gouffres de mon cœur. Après t'avoir bien examiné, je puis te le dire. Tu n'aimes pas. Oui, chère reine de Paris, de même que les reines, tu désireras être traitée en grisette. Tu souhaiteras être dominée, entraînée par un homme fort qui, au lieu de t'adorer, saura te meurtrir le bras en te saisissant au milieu d'une scène de jalousie. Macumer t'aime trop pour pouvoir jamais soit te réprimander, soit te résister. Un seul de tes regards, une seule de tes paroles d'enjôleuse fait fondre le plus fort de ses vouloirs. Tôt ou tard, tu le mépriseras de ce qu'il t'aime trop. Hélas, il te gâte, comme je te gâtais quand nous étions au couvent. Car tu es une des plus séduisantes femmes et un des esprits les plus enchanteurs qu'on puisse imaginer. Tu es vrai surtout, et souvent, le monde exige pour notre propre bonheur des mensonges auxquels tu ne descendras jamais. Ainsi, le monde demande qu'une femme ne laisse point voir l'empire qu'elle exerce sur son mari. Socialement parlant, un mari ne doit pas plus paraître l'amant de sa femme quand il l'aime en amant qu'une épouse ne doit jouer le rôle d'une maîtresse. Or, vous manquez tous deux à cette loi. Mon enfant, d'abord, ce que le monde pardonne le moins, en le jugeant d'après ce que tu m'en as dit, c'est le bonheur. On doit le lui cacher. Mais ceci n'est rien. Il existe entre amants une égalité qui ne peut jamais, selon moi, apparaître entre une femme et son mari, sous peine d'un renversement social et sans des malheurs irréparables. Un homme nul est quelque chose d'effroyable, mais il y a quelque chose de pire, c'est un homme annulé. Dans un temps donné, tu auras réduit Macumer à n'être que l'ombre d'un homme. Il n'aura plus sa volonté, il ne sera plus lui-même, mais une chose façonnée à ton usage. Tu te le seras si bien assimilé qu'au lieu d'être deux, il n'y aura plus qu'une personne dans votre ménage. Et cet être-là sera nécessairement incomplet. Tu en souffres, et le mal sera sans remède quand tu daigneras ouvrir les yeux. Nous aurons beau faire, notre sexe ne sera jamais doué des qualités qui distinguent l'homme. Et ces qualités sont plus que nécessaires, elles sont indispensables à la famille. En ce moment, malgré son aveuglement, Macumer entrevoit cet avenir. Il se sent diminué par son amour. Son voyage en Sardaigne me prouve qu'il va tenter de se retrouver lui-même par cette séparation momentanée. Tu n'hésites pas à exercer le pouvoir que te remet l'amour. Ton autorité s'aperçoit dans un geste, dans le regard, dans l'accent. Oh, chère, tu es, comme le disait ta mère, une folle courtisane. Certes, il t'est prouvé, je crois, que je suis de beaucoup supérieure à Louis. Mais m'as-tu vu jamais le contredisant ? ne suis-je pas en public une femme qui le respecte comme le pouvoir de la famille ? Hypocrisie, diras-tu. D'abord, les conseils que je crois utile de lui donner, mes avis, mes idées, je ne les lui soumets jamais que dans l'ombre et le silence de la chambre à coucher. Mais je puis te jurer, mon ange, qu'alors même, je n'affecte envers lui aucune supériorité. Si je ne restais pas secrètement comme ostensiblement sa femme, il ne croirait pas en lui. Ma chère, la perfection de la bienfaisance consiste à s'effacer si bien que l'obligé ne se croit pas inférieur à celui qui l'oblige. Et ce dévouement caché comporte des douceurs infinies. Aussi ma gloire a-t-elle été de te tromper toi-même, et tu m'as fait des compliments de lui. La prospérité, le bonheur, l'espoir, lui ont d'ailleurs fait regagner depuis 2 ans tout ce que le malheur, les misères, l'abandon, le doute lui avaient fait perdre. En ce moment donc, d'après mes observations, je trouve que tu aimes Felipe pour toi et non pour lui-même. Il y a du vrai dans ce que t'a dit ton père. Ton égoïsme de grande dame est seulement déguisé sous les fleurs du printemps de ton amour. Ah, mon enfant, il faut te bien aimer pour te dire de si cruelles vérités. Laisse-moi te raconter, sous la condition de ne jamais souffler de ceci le moindre mot au baron, la fin d'un de nos entretiens. Nous avions chanté tes louanges sur tous les tons, car il a bien vu que je t'aimais comme une sœur que l'on aime. Et après l'avoir amené sans qu'il y prît garde à des confidences, « Louise, lui ai-je dit, n'a pas encore lutté avec la vie. Elle est traitée en enfant gâtée par le sort, et peut-être serait-elle malheureuse si vous ne saviez pas être un père pour elle, comme vous êtes un amant. » « Et le puis-je » a-t-il dit. Il s'est arrêté tout court, comme un homme qui voit le précipice où il va rouler. Cette exclamation m'a suffi. Si tu n'étais pas parti, il m'en aurait dit davantage quelques jours après. Mon ange, quand cet homme sera sans force, quand il aura trouvé la satiété dans le plaisir, quand il se sentira, je ne dis pas avili, mais sans sa dignité devant toi, les reproches que lui fera sa conscience lui donneront une sorte de remords, blessant pour toi, par cela même que tu te sentiras coupable. Enfin, tu finiras par mépriser celui que tu ne te seras pas habitué à respecter. Songe-y. Le mépris chez la femme est la première forme que prend sa haine. Comme tu es noble de cœur, tu te souviendras toujours des sacrifices que Felipe t'aura faits. Mais il n'aura plus à t'en faire, après s'en être en quelque sorte servi lui-même dans ce premier festin. Et malheur à l'homme, comme à la femme, qui ne laisse rien à souhaiter. Tout est dit. À notre honte ou à notre gloire, je ne saurais décider ce point délicat. Nous ne sommes exigeantes que pour l'homme qui nous aime. Ô Louise, change. Il est temps encore. Tu peux, en te conduisant avec Macumer, comme je me conduis avec l'Estorade, faire surgir le lion caché dans cet homme vraiment supérieur. On dirait que tu veux te venger de sa supériorité. Ne seras-tu donc pas fière d'exercer ton pouvoir autrement qu'à ton profit, de faire un homme de génie d'un homme grand, comme je fais un homme supérieur d'un homme ordinaire? Tu serais restée à la campagne, je t'aurais toujours écrit cette lettre. J'eusse craint ta pétulance et ton esprit dans une conversation, tandis que je sais que tu réfléchiras à ton avenir en me lisant. Chère âme, tu as tout pour être heureuse. Ne gâte pas ton bonheur et retourne dès le mois de novembre à Paris. Les soins et l'entraînement du monde dont je me plaignais sont des diversions nécessaires à votre existence, peut-être un peu trop intime. Une femme mariée doit avoir sa coquetterie, la mère de famille qui ne laisse pas désirer sa présence en se rendant rare au sein du ménage, risque d'y faire connaître la satiété. Si j'ai plusieurs enfants, ce que je souhaite pour mon bonheur, Je te jure que dès qu'ils arriveront à un certain âge, je me réserverai des heures pendant lesquelles je serai seule. Car il faut se faire demander par tout le monde, même par ses enfants. Adieu, chère jalouse. Sais-tu qu'une femme vulgaire serait flattée de t'avoir causé ce mouvement de jalousie ? Hélas, je ne puis que m'en affliger, car il n'y a en moi qu'une mère et une sincère amie. Mille tendresses. Enfin, fais tout ce que tu voudras pour excuser ton départ. Si tu n'es pas sûre de Felipe, je suis sûre de Louis.
Lettre 37 de la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Gênes. Ma chère belle, j'ai eu la fantaisie de voir un peu l'Italie et suis ravie d'y avoir entraîné Macumer, dont les projets relativement à la Sardaigne sont ajournés. Ce pays m'enchante et me ravit. Ici, les églises et surtout les chapelles ont un air amoureux et coquet qui doit donner à une protestante envie de se faire catholique. On a fêté Macumer et l'on s'est applaudi d'avoir acquis un sujet pareil. Si je la désirais, Felipe aurait l'ambassade de Sardaigne à Paris, car la cour est charmante pour moi. Si tu m'écris, adresse tes lettres à Florence. Je n'ai pas trop le temps de t'écrire en détail. Je te raconterai mon voyage à ton premier séjour à Paris. Nous ne resterons ici qu'une semaine. De là, nous irons à Florence par Livourne. Nous séjournerons un mois en Toscane et un mois à Naples, afin d'être à Rome en novembre. Nous reviendrons par Venise, où nous demeurerons la première quinzaine de décembre. Puis nous arriverons par Milan et par Turin à Paris pour le mois de janvier. Nous voyageons en amant. La nouveauté des lieux renouvelle nos chères noces. Macumer ne connaissait point l'Italie, et nous avons débuté par ce magnifique chemin de la corniche qui semble construit par les fées. Adieu, chérie. Ne m'en veux pas si je ne t'écris point. Il m'est impossible de trouver un moment à moi en voyage. Je n'ai que le temps de voir, de sentir et de savourer mes impressions. Mais pour t'en parler, j'attendrai qu'elles aient pris les teintes du souvenir.
Chapitre 38 De la vicomtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Septembre. Ma chère, il y a pour toi, Chantepleurs, une assez longue réponse à la lettre que tu m'as écrite de Marseille. Ce voyage fait en amant est si loin de diminuer les craintes que tu y exprimais que je te prie d'écrire en hivernais pour qu'on t'envoie ma lettre. Le ministère a résolu, dit-on, de dissoudre la chambre. Si c'est un malheur pour la couronne qui devait employer la dernière session de cette législature dévoué à faire rendre des lois nécessaires à la consolidation du pouvoir, c'en est un pour nous aussi. Louis n'aura 40 ans qu'à la fin de 1827. Heureusement, mon père, qui consent à se faire nommer député, donnera sa démission en temps utile. Ton filleul a fait ses premiers pas sans sa marraine. Il est d'ailleurs admirable, et commence à me faire de ses petits gestes gracieux qui me disent que ce n'est plus seulement un organe qui tète, une vie brutale, mais une âme. Ses sourires sont pleins de pensées. Je suis si favorisée dans mon métier de nourrice que je sèvrerai notre Armand en décembre. Un an de lait suffit. Les enfants qui tètent trop deviennent des sots. Je suis pour les dictons populaires. Tu dois avoir un succès fou en Italie, ma belle blonde. Mille tendresses.
Lettre 39 de la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Rome, décembre. J'ai ton infâme lettre que, sur ma demande, mon régisseur m'a envoyée de Chantepleurs, ici. Oh, René, mais je t'épargne tout ce que mon indignation pourrait me suggérer. Je vais seulement te raconter les effets produits par ta lettre. Au retour de la fête charmante que nous a donnée l'ambassadeur, et où j'ai brillé de tout mon éclat, d'où Macumer est revenu dans un enivrement de moi que je ne saurais peindre, je lui ai lu ton horrible réponse, et je la lui ai lue en pleurant, au risque de lui paraître laide. Mon cher avancérage est tombé à mes pieds en te traitant de radoteuse. Il m'a emmenée au balcon du palais où nous sommes et d'où nous voyons une partie de Rome. Là, son langage a été digne de la scène qui s'offrait à nos yeux, car il faisait un superbe clair de lune. Comme nous savons déjà l'italien, son amour, exprimé dans cette langue si molle et si favorable à la passion, m'a paru sublime. Il m'a dit que, quand même tu serais prophète, il préférait une nuit heureuse ou l'une de nos délicieuses matinées à toute une vie. À ce compte, il avait déjà vécu 1000 ans. Il voulait que je restasse sa maîtresse et ne souhaitait pas d'autre titre que celui de mon amant. Il est si fier et si heureux de se voir chaque jour le préféré que, si Dieu lui apparaissait et lui donnait à opter entre vivre encore 30 ans selon ta doctrine et avoir 5 enfants, ou n'avoir plus que 5 ans de vie en continuant nos chers amours fleuris, son choix serait fait. Il aimerait mieux être aimé comme je l'aime et mourir. Ces protestations dites à mon oreille, ma tête sur son épaule, son bras autour de ma taille, ont été troublés en ce moment par les cris de quelques chauves-souris qu'un chat-huant avait surprise. Ce cri de mort m'a fait une si cruelle impression que Felipe m'a emporté à demi évanoui sur mon lit. Mais rassure-toi, quoique cet horoscope ait retenti dans mon âme, ce matin je vais bien. En me levant, je me suis mise à genoux devant Felipe, et, les yeux sous les siens, ses mains prises dans les miennes, je lui ai dit: mon ange, je suis un enfant, et René pourrait avoir raison. C'est peut-être seulement l'amour que j'aime en toi, mais du moins, sache qu'il n'y a pas d'autre sentiment dans mon cœur, et que je t'aime alors à ma manière. Enfin, si dans mes façons, dans les moindres choses de ma vie et de mon âme, il y avait quoi que ce soit de contraire à ce que tu voulais ou espérais de moi, dis-le, fais-le-moi connaître. J'aurai du plaisir à t'écouter et à ne me conduire que par la lueur de tes yeux. Renée m'effraie, elle m'aime tant. » Macumer n'a pas eu de voix pour me répondre. Il fondait en larmes. « Maintenant, je te remercie, ma Renée. Je ne savais pas combien je suis aimée de mon beau, de mon royal Macumer. Rome est la ville où l'on aime. Quand on a une passion, c'est là qu'il faut aller en jouir. On a les arts et Dieu pour complices. Nous trouverons, à Venise, le duc et la duchesse de Soria. Si tu m'écris, écris-moi maintenant à Paris, car nous quittons Rome dans 3 jours. La fête de l'ambassadeur était un adieu. Post-scriptum. Cher imbécile, ta lettre montre bien que tu ne connais l'amour qu'en idée. Sache donc que l'amour est un principe dont tous les effets sont si dissemblables qu'aucune théorie ne saurait les embrasser ni les régenter. Ceci est pour mon petit docteur en corset.
Chapitre 40. De la comtesse de l'Estorade à la baronne de Macumer. Janvier 1827. Mon père est nommé, mon beau-père est mort, et je suis encore sur le point d'accoucher. Tels sont les événements marquants de la fin de cette année. Je te l'ai dit sur le champ pour que l'impression que te fera mon cachet noir se dissipe aussitôt. Ma mignonne, ta lettre de Rome m'a fait frémir. Vous êtes deux enfants. Philippe est ou un diplomate qui a dissimulé ou un homme qui t'aime comme il aimerait une courtisane à laquelle il abandonnerait sa fortune tout en sachant qu'elle le trahit. En voilà bien assez. Vous me prenez pour une radoteuse, je me tairai. Mais laisse-moi te dire qu'en étudiant vos deux destinées, j'en tire un cruel principe. Voulez-vous être aimée? N'aimez pas. Louis, ma chère, a obtenu la croix de la Légion d'honneur quand il a été nommé membre du Conseil général. Or, comme voici bientôt 3 ans qu'il est du Conseil et que mon père, que tu verras sans doute à Paris pendant la session, a demandé pour son gendre le grade d'officier, fais-moi le plaisir d'entreprendre le mamamouchi quelconque que cette nomination regarde et de veiller à cette petite chose. Surtout, ne te mêle pas des affaires de mon très honoré père, le comte de Maucombe qui veut obtenir le titre de marquis. Réserve tes faveurs pour moi. Quand Louis sera député, c'est-à-dire l'hiver prochain, nous viendrons à Paris et nous y remuerons alors ciel et terre pour le placer à quelque direction générale, afin que nous puissions économiser tous nos revenus en vivant des appointements d'une place. Mon père siège entre le centre et la droite. Il ne demande qu'un titre. Notre famille était déjà célèbre sous le roi René. Le roi Charles X ne refusera pas un Maucombe. Mais j'ai peur qu'il ne prenne à mon père fantaisie de postuler quelque faveur pour mon frère cadet. Et en lui tenant la dragée du marquisat un peu plus haut, il ne pourra penser qu'à lui-même. 15 janvier. Ah, Louise, je sors de l'enfer. Si j'ai le courage de te parler de mes souffrances, c'est que tu me sembles une autre moi-même. Encore, ne sais-je pas si je laisserai jamais ma pensée revenir sur ces 5 fatales journées. Le seul mot de convulsion me cause un frisson dans l'âme même. Ce n'est pas 5 jours qui viennent de se passer, mais 5 siècles de douleur. Tant qu'une mère n'a pas souffert ce martyre, elle ignorera ce que veut dire le mot souffrance. Je t'ai trouvée heureuse de ne pas avoir d'enfant. Ainsi, juge de ma déraison. La veille du jour terrible, le temps qui avait été lourd et presque chaud, me parut avoir incommodé mon petit Armand. Lui, si doux et si caressant, il était grimaud. Il criait à propos de tout. Il voulait jouer et briser ses joujoux. Peut-être, toutes les maladies s'annoncent-elles chez les enfants par ces changements d'humeur. Attentive à cette singulière méchanceté, j'observais chez Armand des rougeurs et des pâleurs que j'attribuais à la pousse de 4 grosses dents qui percent à la fois. Aussi l'ai-je couché près de moi, m'éveillant de moment en moment. Pendant la nuit, il eut un peu de fièvre, qui ne m'inquiétait point, je l'attribuais toujours aux dents. Vers le matin, il dit « Maman !» en demandant à boire par un geste, mais avec un éclat dans la voix, avec un mouvement convulsif dans le geste, qui me glacèrent le sang. Je sautai hors du lit pour aller lui préparer de l'eau sucrée. Juge de mon effroi, quand en lui présentant la tasse, je ne lui vis faire aucun mouvement. Il répétait seulement « Maman !» de cette voix qui n'était plus sa voix, qui n'était même plus une voix. Je lui pris la main, mais elle n'obéissait plus, elle se roidissait. Je lui mis alors la tasse aux lèvres. Le pauvre petit but d'une manière effrayante, par 3 ou 4 gorgées convulsives. Et l'eau fit un bruit singulier dans son gosier. Enfin, il s'accrocha désespérément à moi, et j'aperçus ses yeux tirés par une force intérieure devenir blancs, ses membres perdre leur souplesse. Je jetai des cris affreux. Louis vint. « un médecin, il meurt !» lui criai-je. Louis disparut, et mon pauvre Armand dit encore « Maman, maman !» en se cramponnant à moi. Ce fut le dernier moment où il sut qu'il avait une mère. Les jolis vaisseaux de son front se sont injectés, et la convulsion a commencé. 1 heure avant l'arrivée des médecins, je tenais cet enfant si vivace, si blanc et rose, cette fleur qui faisait mon orgueil et ma joie, roide comme un morceau de bois. Et quels yeux ! Je frémis en me les rappelant, noirs, crispés, rabougris, muets. Mon gentil Armand était une momie. Un médecin, deux médecins amenés de Marseille par Louis, restaient là, plantés sur leurs jambes comme des oiseaux de mauvais augure. Ils me faisaient frissonner. L'un parlait de fièvre cérébrale, l'autre voyait des convulsions comme en ont les enfants. Le médecin de notre canton me paraissait être le plus sage parce qu'il ne prescrivait rien. « C'est les dents, » disait le second. « C'est une fièvre, » disait le premier. Enfin, on convint de mettre des sangsues au cou et de la glace sur la tête. Je me sentais mourir. Être là, voir un cadavre bleu ou noir, pas un cri, pas un mouvement, au lieu de cette créature si bruyante et si vive. Il y eut un moment où ma tête s'est égarée, et où j'ai eu comme un rire nerveux, en voyant ce joli cou que j'avais tant baisé, mordu par des sangsues, et cette charmante tête sous une calotte de glace. Ma chère, il a fallu lui couper cette jolie chevelure que nous admirions tant et que tu avais caressée pour pouvoir mettre la glace. De 10 minutes en 10 minutes, comme dans mes douleurs d'accouchement, la convulsion revenait, et le pauvre petit se tordait, tantôt pâle, tantôt violet. En se rencontrant, ses membres si flexibles rendaient un son comme si c'eût été du bois. Cette créature insensible m'avait souri, m'avait parlé, m'appelait naguère encore maman. À ses idées, des masses de douleurs me traversaient l'âme, en l'agitant comme des ouragans agitent la mer, et je sentais tous les liens par lesquels un enfant tient à notre cœur ébranlé. Ma mère, qui peut-être m'aurait aidée, conseillée ou consolée, est à Paris. Les mères en savent plus sur les convulsions que les médecins, je crois. Après 4 jours et 4 nuits passées dans des alternatives et des craintes qui m'ont presque tuée, les médecins furent d'avis d'appliquer une affreuse pommade pour faire des plaies. Oh, des plaies à mon Armand, qui jouait 5 jours auparavant, qui souriait, qui s'essayait à dire ma reine. Je m'y suis refusée en voulant me confier à la nature. Louis me grondait, il croyait au médecin. Un homme est toujours un homme. Mais il y a dans ces terribles maladies des instants où elles prennent la forme de la mort. Et pendant un de ces instants, ce remède que j'abominais me parut être le salut d'Armand. Ma Louise, la peau était si sèche, si rude, si aride, que Longan ne prit pas. Je me mis alors à fondre en larmes, pendant si longtemps, au-dessus du lit, que le chevet en fut mouillé. Les médecins dînaient, eux. Me voyant seule, j'ai débarrassé mon enfant de tous les topiques de la médecine. Je l'ai pris, quasi folle, dans mes bras. Je l'ai serré contre ma poitrine. J'ai appuyé mon front à son front, en priant Dieu de lui donner ma vie, tout en essayant de la lui communiquer. Je l'ai tenu pendant quelques instants ainsi, voulant mourir avec lui pour n'être séparé ni dans la vie ni dans la mort. Ma chère, j'ai senti les membres fléchir, la convulsion a cédé, mon enfant a remué, les sinistres et horribles couleurs ont disparu. J'ai crié comme quand il était tombé malade, les médecins ont monté. Je leur ai fait voir Armand. « Il est sauvé !» s'est écrié le plus âgé des médecins. Oh, quelle parole! Quelle musique! Les cieux s'ouvraient! En effet, 2 heures après, Armand renaissait. Mais j'étais anéantie. Il a fallu, pour m'empêcher de faire quelque maladie, le baume de la joie. Oh mon Dieu! Par quelle douleur attachez-vous l'enfant à sa mère? Quel clou vous nous enfoncez au cœur pour qu'il y tienne? N'étais-je donc pas assez mère encore, moi, que les bégaiements et les premiers pas de cet enfant ont fait pleurer de joie? Moi qui l'étudie pendant des heures entières pour bien accomplir mes devoirs et m'instruire au doux métier de mère. Était-il besoin de causer cette erreur, d'offrir ces épouvantables images à celle qui fait de son enfant une idole. Au moment où je t'écris, notre Armand joue, il crie, il rit. Je cherche alors les causes de cette horrible maladie des enfants, en songeant que je suis grosse. Est-ce la pousse des dents? Est-ce un travail particulier qui se fait dans le cerveau? Les enfants qui subissent des convulsions ont-ils une imperfection dans le système nerveux? Toutes ces idées m'inquiètent, autant pour le présent que pour l'avenir. Notre médecin de campagne tient pour une excitation nerveuse causée par les dents. Je donnerais toutes les miennes pour que celle de notre petit Armand fusse faite. Quand je vois une de ses perles blanches poindre au milieu de sa gencive enflammée, il me prend maintenant des sueurs froides. L'héroïsme avec lequel ce cher ange souffre m'indique qu'il aura tout mon caractère. Il me jette des regards à fendre le cœur. La médecine ne sait pas grand-chose sur les causes de cette espèce de tétanos qui finit aussi rapidement qu'il commence. Qu'on ne peut ni prévenir ni guérir. Je te le répète, une seule chose est certaine. Voir son enfant en convulsion, voilà l'enfer pour une mère. Oh, avec quelle rage je l'embrasse. Oh, comme je le tiens longtemps sur mon bras en le promenant. Avoir eu cette douleur quand je dois accoucher de nouveau dans 6 semaines, c'était une horrible aggravation du martyre. J'avais peur pour l'autre. Adieu, ma chère et bien-aimée Louise. Ne désire pas d'enfant. Voilà mon dernier mot.
Lettre 41 de la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Paris. Pauvre ange, Macumer et moi nous t'avons pardonné tes mauvaisetés en apprenant combien tu as été tourmentée. J'ai frissonné, j'ai souffert en lisant les détails de cette double torture, et me voilà moins chagrine de ne pas être mère. Je m'empresse de t'annoncer la nomination de Louis, qui peut porter la rosette d'officier. Tu désirais une petite fille, probablement tu en auras une, heureuse Renée. Le mariage de mon frère et de mademoiselle de Morceau a été célébré à notre retour. Notre charmant roi, qui vraiment est d'une bonté admirable, a donné à mon frère la survivance de la charge de premier gentilhomme de la chambre dont est revêtu son beau-père. La charge doit aller avec les titres, a-t-il dit au duc de Lenoncourt-Givry. Mon père avait 100 fois raison. Sans ma fortune, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Mon père et ma mère sont venus de Madrid pour ce mariage, et y retournent après la fête que je donne demain aux nouveaux mariés. Le carnaval sera très brillant. Le duc et la duchesse de Soria sont à Paris. Leur présence m'inquiète un peu. Marie Hérédia est certes une des plus belles femmes de l'Europe. Je n'aime pas la manière dont Felipe la regarde. Aussi redoublé-je d'amour et de tendresse. Elle ne t'aurait jamais aimé ainsi, est une parole que je me garde bien de dire, mais qui est écrite dans tous mes regards, dans tous mes mouvements. Dieu sait si je suis élégante et coquette. Hier, madame de Maufrigneuse me disait « Cher enfant, il faut vous rendre les armes ». Enfin, j'amuse tant Felipe qu'il doit trouver sa belle-sœur bête comme une vache espagnole. J'ai d'autant moins de regret de ne pas faire un petit avant-serrage que la duchesse accouchera sans doute à Paris. Elle va devenir laide. Si elle a un garçon, il se nommera Felipe en l'honneur du banni. Un malicieux hasard fera que je serai encore marraine. Adieu, chère. J'irai de bonne heure cette année à Chantepleur, car notre voyage a coûté des sommes exorbitantes. Je partirai vers la fin de mars, afin d'aller vivre avec économie en Nivernais. Paris m'ennuie d'ailleurs. Felipe soupire autant que moi après la belle solitude de notre parc, nos fraîches prairies et notre Loire pailletée par ses sables, à laquelle aucune rivière ne ressemble. Chantepleurs me paraîtra délicieux, après les pompes et les vanités de l'Italie. Car, après tout, la magnificence est ennuyeuse, et le regard d'un amant est plus beau qu'un capot d'opéra, qu'un bel quadro. Nous t'y attendrons, je ne serai plus jalouse de toi. Tu pourras sonder à ton aise le cœur de mon Macumer, y pêcher des interjections, en ramener des scrupules, je te le livre avec une superbe confiance. Depuis la scène de Rome, Felipe m'aime davantage. Il m'a dit hier, il regarde par-dessus mon épaule, que sa belle-sœur, la Marie de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la princesse Hérédia, son premier rêve, était stupide. Oh, cher, je suis pire qu'une fille d'opéra. Cette injure m'a causé du plaisir. J'ai fait remarquer à Felipe qu'elle ne parlait pas correctement le français. Elle prononce « exemple »,« saint » pour « cinq »,« che » pour « je ». Enfin, elle est belle, mais elle n'a pas de grâce, elle n'a pas la moindre vivacité dans l'esprit. Quand on lui adresse un compliment, elle vous regarde comme une femme qui ne serait pas habituée à en recevoir. Du caractère dont il est, il aurait quitté Marie après 2 mois de mariage. Le duc de Soria, Don Fernand, est très bien assorti avec elle. Il a de la générosité, mais c'est un enfant gâté, cela se voit. Je pourrais être méchante et te faire rire, mais je m'en tiens au vrai. Mille tendresses, mon ange.
Chapitre 42. René à Louise. Ma petite fille a 2 mois. Ma mère a été la marraine et un vieux grand-oncle de Louis, le parrain de cette petite qui se nomme Jeanne Athénaïs. Dès que je le pourrai, je partirai pour vous aller voir à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne vous effraie pas. Ton filleul dit ton nom, il le prononce Matoumer, car il ne peut pas dire les C autrement. Tu en raffoleras, il a toutes ses dents, il mange maintenant de la viande comme un grand garçon, il court et trotte comme un rat, mais je l'enveloppe toujours de regards inquiets. Et je suis au désespoir de ne pouvoir le garder près de moi pendant mes couches, qui exigent plus de 40 jours de chambre à cause de quelques précautions ordonnées par les médecins. Hélas, mon enfant, on ne prend pas l'habitude d'accoucher. Les mêmes douleurs et les mêmes appréhensions reviennent. Cependant, ne montre pas ma lettre à Felipe. Je suis pour quelque chose dans la façon de cette petite fille qui fera peut-être tort à ton Armand. Mon père a trouvé Felipe et maigri, et ma chère mignonne un peu maigrie aussi. Cependant, le duc et la duchesse de Soria sont partis. Il n'y a plus le moindre sujet de jalousie. Me cacherais-tu quelque chagrin? Ta lettre n'était ni aussi longue, ni aussi affectueusement pensée que les autres. Est-ce seulement un caprice de ma chère capricieuse? En voici trop. Ma garde me gronde de t'avoir écrit. Et mademoiselle Athénaïs de l'Estorade veut dîner. Adieu donc. Écris-moi de bonnes longues lettres.
Lettre 43. Madame de Macumer à la comtesse de l'Estorade. Pour la première fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai pleuré seule sous un saule, sur un banc de bois, au bord de mon long étang de Chantepleurs. Une délicieuse vue que tu vas venir embellir, car il n'y manque que de joyeux enfants. Ta fécondité m'a fait faire un retour sur moi-même, qui n'ai point d'enfant après bientôt 3 ans de mariage. Oh, pensais-je, quand je devrais souffrir 100 fois plus que René n'a souffert en accouchant de mon filleul, quand je devrais voir mon enfant en convulsion, faites, mon Dieu, que j'ai une angélique créature comme cette petite Athénaïs que je vois d'ici aussi belle que le jour, car tu ne m'en as rien dit. J'ai reconnu là ma Renée. Il semble que tu devines mes souffrances. Chaque fois que mes espérances sont déçues, je suis pendant plusieurs jours la proie d'un chagrin noir. Je faisais alors de sombres élégies. Quand broderai-je de petits bonnets? Quand choisirai-je la toile d'une layette? Quand coudrai-je de jolies dentelles pour envelopper une petite tête? Ne dois-je donc jamais entendre une de ces charmantes créatures m'appeler maman, me tirer par ma robe, me tyranniser? Ne verrai-je donc pas sur le sable les traces d'une petite voiture? Ne ramasserai-je pas des joujoux cassés dans ma cour? N'irai-je pas, comme tant de mères que j'ai vues, chez les bimbelotiers acheter des sabres, des poupées, de petits ménages? Ne verrai-je point se développer cette vie et cet ange qui sera un autre Felipe plus aimé? Je voudrais un fils pour savoir comment on peut aimer son amant plus qu'il ne l'est dans un autre lui-même. Mon parc, le château, me semblent déserts et froids. Une femme sans enfant est une monstruosité. Nous ne sommes faites que pour être mères. Oh, docteur en corset que tu es, tu as bien vu la vie. La stérilité, d'ailleurs, est horrible en toutes choses. Ma vie ressemble un peu trop aux bergeries de Gessner et de Florian, desquelles Rivarol disait qu'on y désirait des loups. Je veux être dévouée aussi, moi. Je sens en moi des forces que Felipe néglige. Et si je ne suis pas mère, il faudra que je me passe la fantaisie de quelque malheur. Voilà ce que je viens de dire à mon restant de mort, à qui ces mots ont fait venir des larmes aux yeux. Il en a été quitte pour être appelé une sublime bête. On ne peut pas le plaisanter sur son amour. Par moments, il me prend envie de faire des neuvaines, d'aller demander la fécondité à certaines madones ou à certaines eaux. L'hiver prochain, je consulterai des médecins. Je suis trop furieuse contre moi-même pour t'en dire davantage. Adieu. Lettre 44, de la même à la même. Paris, 1829. Comment, ma chère, un an sans lettre? Je suis un peu piquée. Crois-tu que ton Louis, qui m'est venu voir presque tous les deux jours, te remplace? Il ne me suffit pas de savoir que tu n'es pas malade et que vos affaires vont bien. Je veux tes sentiments et tes idées comme je te livre les miennes, au risque d'être grondée ou blâmée ou méconnue. Car je t'aime. Ton silence et ta retraite à la campagne, quand tu pourrais jouir ici des triomphes parlementaires du comte de l'Estorade, dont la parloterie et le dévouement lui ont acquis une influence, et qui sera sans doute placé très haut après la session, me donne de graves inquiétudes. Passes-tu donc ta vie à lui écrire des instructions? Numa n'était pas si loin de son égérie. Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de voir Paris? Je jouirai de toi depuis 4 mois. Louis m'a dit hier que tu viendrais le chercher et faire tes 3e couche à Paris, affreuse mère gigogne que tu es. Après bien des questions et des hélas et des plaintes, Louis, quoique diplomate, a fini par me dire que son grand-oncle, le parrain d'Athénaïs, était fort mal. Or, je te suppose, en bonne mère de famille, capable de tirer parti de la gloire et des discours du député pour obtenir un legs avantageux du dernier parent maternel de ton mari. Sois tranquille, ma Renée. Les Lenoncourt, les Chaulieu, le salon de madame de Macumer travaillent pour Louis. Martignac le mettra sans doute à la cour des comptes. Mais si tu ne me dis pas pourquoi tu restes en province, je me fâche. Est-ce pour ne pas avoir l'air d'être toute la politique de la maison de l'Estorade? Est-ce pour la succession de l'oncle? As-tu craint d'être moins mère à Paris? Oh, comme je voudrais savoir si c'est pour ne pas t'y faire voir, pour la première fois, dans ton état de grossesse, coquette. Adieu.